Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent, « Comme Jésus l'avait dit. » Et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts !» Jésus entra à Jérusalem dans le temple et quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit !» Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons, et il ne laissait personne transporter aucun objet au travers le temple. Et l'enseigné disait, « N'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier sécher jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. » Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons. » Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, parce qu'elle est la vérité, et tu l'as laissée pour notre instruction, pour qu'on apprenne à te connaître, à découvrir ton œuvre, ta personne, que tu es le maître absolu, Seigneur, celui qui veut aussi régner sur nos cœurs, sur nos vies. Béni sois-tu, Seigneur, pour le Saint-Esprit que tu nous as laissé, qui peut prendre les choses de ta parole et les placer sur nos cœurs. Merci Seigneur de nous donner toute l'attention que mérite ta parole par Jésus-Christ. Amen. L'entrée de Jésus dans Jérusalem marque le commencement du conflit entre Jésus et les autorités juives. Le conflit va aller croissant. Le conflit, c'est lorsque deux autorités viennent s'opposer, se confronter. Et au fond, la grande question des prochains chapitres qui va nous occuper, c'est qui est l'autorité suprême ? Qui a véritablement l'autorité ? En entrant d'une manière triomphale dans Jérusalem, Jésus il se présente comme le Messie, rien de moins, l'autorité par excellence. Mais dans la ville, cette ville, elle est gouvernée à Jérusalem, elle est gouvernée par d'autres autorités, des autorités religieuses, des autorités civiles. Et du coup, tour à tour, les pharisiens, et puis les scribes, et les hérodiens, et les sadducéens vont venir et s'opposer à Jésus-Christ. Le conflit va aller crescendo durant ces trois prochains chapitres, et les autorités juives finiront par le condamner à mort à la fin de la même semaine. Ce conflit, cette opposition est plus vaste encore que simplement la scène qui s'est passée à Jérusalem ce jour-là. Le conflit, il est beaucoup plus ancien. Déjà dans le jardin d'Éden, le conflit était ouvert. Qui a véritablement l'autorité? À qui dois-je obéir? Qui dois-je suivre? Qui est Dieu? Est-ce moi? Est-ce lui? Le péché, au fond, c'est se soustraire à l'autorité de Dieu dans notre vie. Et ce conflit, il est donc d'accord, d'actualité, il est aussi plus personnel. Qui détient l'autorité dans ma vie? Est-ce moi, moi-même? Est-ce Dieu? Et si la réponse, elle est évidente, le conflit intérieur, il n'est pas moins réel et permanent. Et donc, je vous propose de regarder ce matin trois épisodes de ce chapitre pour établir l'autorité du maître. On va voir le maître et l'ânon, on verra ensuite le maître des lieux. Et puis enfin, la preuve par le cœur. Regardons le maître et l'ânon, d'abord, pour comprendre qui est notre maître. Ici, dans cette première partie, les versets 1 à 11, les détails sur ce qui attend les disciples démontrent clairement que Jésus est omniscient. Il connaît toutes choses. Il n'est pas dans le village, mais il sait qu'il y a un ânon attaché. Il connaît parfaitement cet ânon, même s'il ne l'a jamais rencontré. Il sait que jamais personne n'est monté dessus. Il connaît aussi la question qui sera posée aux disciples et la réponse qui satisfera les propriétaires ou les voisins. Il a une totale maîtrise, une totale autorité. Imaginez, essayez de faire ça avec Nissan. Vous allez chez Nissan et prenez la clé du Nissan Juke ou du Nissan Qashqai qui est là, dans lequel jamais personne ne s'est assis. Et vous ne partirez pas avec. Même si vous dites le maître en a besoin, vous ne partirez pas parce que vous n'avez pas l'autorité. Jésus a toute autorité. Toute autorité. Tout se déroule exactement comme Jésus l'a dit. Et si Jésus connaît tout des animaux, tout sur le village de Bethphagé, sur le propriétaire de cet ânon et sur les circonstances de cette journée, ça signifie aussi que Jésus connaît aussi parfaitement tout de nous. Il connaît ce que nous faisons, connaît les paroles, même celles qui ne sont pas encore sorties de notre bouche. Il connaît nos circonstances, celles que l'on traverse, et il contrôle aussi chacune d'elles. La Bible dit en Hébreux 4, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » le maître absolu, il connaît toute notre vie. Et c'est cela la difficulté que nous rencontrons. Parce que s'il connaît tout, il peut aussi tout juger de notre vie. Jésus est le Seigneur, il connaît tout à l'avance, et ça signifie également qu'il sait tout ce qui l'attend, précisément à Jérusalem dans cette semaine. Il connaît la suite du conflit, il connaît son arrestation, son procès inique, les coups, le fouet, les épines, et la croix. Le maître est courageux. Il est porté par l'amour pour des pécheurs tels que nous et il entre dans Jérusalem. Alors les disciples reviennent avec l'ânon et on lui fait une selle de fortune avec des vêtements et puis Jésus monte sur l'ânon et il entre dans Jérusalem comme un roi. Il y a une haie d'honneur, il y a un tapis rouge qui est déployé devant lui pour le célébrer. Il y a les acclamations d'une foule nombreuse qui crie « Hosanna !» c'est-à-dire « Sauve maintenant !» Et puis « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Indiscutablement, toute la foule reconnaît Jésus comme le roi, le Messie, le descendant de David, celui qui doit régner à Jérusalem et celui qui va délivrer le peuple de la domination romaine. Il faut noter que aussi tout se passe comme Zacharie l'a écrit 500 ans plus tôt. Hein, dans Zacharie chapitre 9, verset 9, il est écrit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse tes cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. » Comment le peuple devait-il reconnaître le Messie ? Il devait reconnaître le Messie parce que le Messie viendrait monter sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il ne chevauche pas un puissant cheval de guerre, comme la plupart des rois le feraient, mais un ânon. Vous vous rendez compte, il n'y a pas de roi plus puissant que Jésus. Il est le Christ, il est le Messie, il est le roi de toute autorité. Il est doté d'une miraculeuse puissance. Juste avant notre passage, il vient de guérir Bartimée, mendiant aveugle. Dans l'évangile de Jean, on apprend qu'il vient de ressusciter Lazare, mort depuis 4 jours. Rien ne lui est impossible. Et il entre à Jérusalem, sur une monture, faite pour un enfant. Ses pieds touchent par terre, probablement, presque. C'est complètement surprenant. C'est bouleversant. Jésus est le maître absolu, mais il est différent de tous les autres maîtres. Regardez ce qu'il dit dans le chapitre précédent, chapitre 10, verset 42. Jésus appela ses disciples, ils viennent de s'indigner parce qu'il y a les deux frères, Jacques et Jean, qui ont voulu être assis à la droite et à la gauche de Jésus quand il sera dans son règne. Et Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent, il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Voilà notre maître. Notre maître, il est tellement grand qu'il a accepté de servir, d'être le serviteur du plus petit. En citant un sermon de Jonathan Edwards de 1738, Tim Keller a écrit ceci. « En Jésus, nous trouvons une majesté infinie et une humilité totale, une justice parfaite et une grâce sans limite, une souveraineté absolue et une soumission inconditionnelle, une personne qui se suffit à elle-même et qui dépend entièrement de Dieu par la confiance. » Voilà ce qui est extraordinaire chez notre Seigneur, c'est que sa suprême autorité, il l'a mise au service des pécheurs que nous sommes, en s'offrant à Dieu comme une rançon pour nous sauver de la condamnation. La Bible dit en Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8, « Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et c'est pourquoi on ne devrait pas craindre ce maître. On devrait au contraire l'aimer de tout notre cœur, se soumettre à Jésus-Christ parce que dans sa personne revêt d'une manière parfaite la plus grande autorité et la plus belle humilité. Sa grande autorité nous garantit sa puissance et son humilité nous garantit sa bienveillance et sa bonté envers nous. Voyons maintenant le maître des lieux dans l'épisode qui suit. Vous avez remarqué dans notre passage, au verset 11, Jésus entre dans le temple et il fait une visite éclair. Il sait tout ce qui s'y passe et en fait ça ne lui plaît pas beaucoup, ou ça ne lui plaît pas du tout. Il retourne passer la nuit à Béthanie et le lendemain il se met en route pour une seconde visite au temple, cette fois-ci une visite un peu plus musclée. Mais en route, Jésus a faim. Et cette faim devient un prétexte pour une courte et saisissante illustration. Il voit un figuier. Donc nous sommes dans cette période avant Pâques, la semaine de Pâques. On est donc au printemps. Et vous, les Toulousains, vous savez que les figues, on les récolte à l'été et pas au printemps. Mais néanmoins, sur ce figuier, il y a des feuilles. Il est couvert de feuilles. Et quand les premières feuilles apparaissent sur les figuiers, il y a aussi des petites figues, qu'on appelle des figues fleurs, et qui annoncent que le figuier produira des fruits. En Israël, on peut manger ces petites figues précoces. Chez nous, elles ne sont pas très goûteuses. Ou en tout cas, j'ai essayé, elles ne me plaisent pas beaucoup. Mais sur ce figuier, il y a donc beaucoup de feuilles et Jésus s'attend à trouver ces petites figues-là un peu partout et pouvoir les manger. Mais il n'y a rien. Rien. Ça veut dire qu'il y a un problème ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y aura aucun fruit. Alors Jésus maudit le figuier. De loin, cet arbre paraissait normal, il avait une belle allure, mais il était stérile et probablement malade. Alors Jésus entre dans le temple. Il faut comprendre aussi que le figuier, c'est une des images qui est employée dans la Bible pour parler d'Israël, avec la vigne et l'olivier. Tout d'abord, et tout au long de l'histoire de la nation, le temple était le centre de la vie religieuse de tout Israël. Le fruit que Dieu s'attend à trouver en Israël, dans son temple, c'est lui-même. Ce qu'il s'attend à trouver, c'est la confiance, la foi en lui, la communion avec lui, c'est l'adoration, la joie, la paix, l'amour qui est produit par le Saint-Esprit. Lorsque Jésus entre, il trouve rien de tout cela. Oh, l'aspect extérieur est somptueux. En plus, Hérode a refait des travaux d'embellissement du temple. Donc, le temple est vraiment magnifique à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Alors Jésus, il entre là-dedans et il renverse les tables des changeurs. En fait, vous comprenez pourquoi il y avait des changeurs là ? C'est que c'est la Pâque, donc c'est la semaine des pains sans levain. Il y a du monde qui vient de toutes les nations alentour à Israël. Ils viennent tous pour faire des offrandes et... Mais dans le temple, ça c'est la règle qui a été imposée par les sacrificateurs et par les businessmen du temple, on ne peut pas payer uniquement avec l'argent du temple. Donc si vous voulez avec vos euros, il faut changer vos euros pour l'argent du temple. Et là, il y a une petite ou une grosse commission qui est prise et qui va dans les poches des sacrificateurs. Donc voilà un peu l'état d'esprit. Et puis, quand vous venez d'un pays lointain et que vous venez pour adorer, vous n'avez pas transporté vos agneaux ou vous n'avez pas transporté vos pigeons. Donc vous les achetez dans le temple. Et là, vous ne pouvez acheter que les, dans tout Jérusalem, que les agneaux du temple, c'est-à-dire et tous les pigeons du temple. Et là, vous payez le prix fort et ça va encore dans la poche de certains de ces sacrificateurs et pharisiens. Et Jésus entre là-dedans et il ne supporte pas cela. Et il enseigne. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et vous, vous en avez fait un repère, une caverne de voleurs. En fait, ce n'est pas tout le temple qui est occupé par le business, mais c'est simplement le parvis des gentils, des non-juifs, qui est occupé. Tout le commerce relatif au temple se faisait dans l'espace qui était réservé aux non-juifs. Imaginez le raffut que ça pouvait faire. Imaginez les va-et-vient, les brouhahas. C'est comme Wall Street, les jours de grandes annonces. Ça crie, ça hurle, ça marchande, ça négocie, etc. Et puis en plus, il y a tout le bétail qui fait un raffut pas possible. Et vous savez, c'est l'endroit où les non-juifs étaient censés venir pour rencontrer Dieu dans le recueillement et la prière. Jésus, il ne supporte pas cela. Et c'est pour cela qu'il renverse toutes ces choses. Jésus condamne l'activité religieuse de son époque. Oh, les apparences sont belles, mais il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la communion avec Dieu. On n'est même pas préoccupé par Dieu. On n'est pas préoccupé par ce qui lui plaît, par ce qu'il aime, par sa personne. On n'est pas préoccupé par la communion avec lui. On n'est pas soucieux de recevoir le pardon. Et même les non-juifs qui voudraient s'approcher de Dieu ne peuvent le faire à cause de cette activité religieuse, entre guillemets, des juifs. Alors le figuier a été maudit et il a séché jusqu'à ses racines. Jésus a maudit cet arbre. C'est la seule fois où on voit Jésus dans la Bible maudire quelque chose, quelqu'un. Et il maudit ici pour nous donner un avertissement solennel, principalement au peuple d'Israël, mais que l'on peut reprendre pour nous. Dieu ne veut pas que les hommes soient maudits, et c'est pourquoi il a donné cette illustration saisissante. Il ne voulait pas que le peuple soit maudit, ne voulait pas que le peuple s'éloigne encore plus de Dieu. Et pourtant, 40 ans plus tard, après ces événements, le temple va être rasé et le peuple va être dispersé par les armées du général Titus, qui sera un futur empereur. Le temple de Dieu aujourd'hui, c'est notre cœur. Je voudrais vous lire quelques versets en 1 Corinthiens, on a lu ça cette semaine. Hein. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, il dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Et puis au chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix ?» Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et puis, le temple de Dieu, c'est aussi l'Église, non pas les murs, mais les croyants qui forment une habitation de Dieu en esprit, selon Éphésiens 2, 22. Vous savez, c'est assez facile de maintenir l'extérieur en bon état, de soigner les apparences, d'avoir les feuilles de la foi, même si on est dépourvu de fruits. On peut fréquenter une église sans jamais y rencontrer le maître des lieux. On peut faire beaucoup de choses qui ont l'apparence de la foi, mais sans véritablement changement de cœur, sans un véritable amour pour le maître. On peut être attaché à des rites, peut être attaché à une ambiance, peut être attaché à un lieu, sans être attaché réellement à Jésus. La question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que Jésus, il est le centre de ma vie? Est-ce qu'il est le maître des lieux, d'ici là, de mon cœur? Est-ce qu'il a l'autorité sur mon corps, sur ma vie? Est-ce qu'il a l'autorité sur mes pensées? Vous savez, quand on réfléchit comme ça, facilement on voit, oui Seigneur, je sais que tu es le maître, et pourtant je vois bien que tu ne règnes pas toujours sur mes pensées, sur mon propre cœur. Combien j'ai des difficultés à véritablement t'aimer et à te suivre. Et le Seigneur sait ces choses. Et c'est pour ça que il y avait un temps dans lequel on pouvait retrouver la communion avec Dieu. Au travers des sacrifices qui étaient faits, c'était des sacrifices qui permettaient de retrouver de la communion avec Dieu, parce que ces sacrifices-là préfiguraient un sacrifice parfait, celui du Maître qui s'offrait lui-même pour nous réconcilier avec lui. Votre vie est-elle centrée sur Christ? Sa puissance produit-elle son caractère en vous? Quand Pierre passe à nouveau le lendemain devant le figuier, je dis, regarde Jésus, le figuier que tu as maudit, il est sec jusqu'aux racines. Et Jésus, il fait cette réponse, ayez foi en Dieu. Je trouvais surprenant cette réponse. Ayez foi en Dieu. Mais ce n'est pas surprenant. Ayez foi en Dieu, c'est la foi en Christ, le fruit que Jésus cherchait. C'est-à-dire, cette confiance en Dieu, et cette confiance en Dieu, elle se manifeste notamment dans la prière. Et c'est pour cela qu'il continue en disant, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, c'est-à-dire la foi dans le Maître. Pas la foi dans la foi, ou pas la foi dans la prière, mais la foi dans le Maître. Le Maître est absolu, il est tout puissant. Et c'est ce fruit-là de nos cœurs que Jésus cherchait dans son temple. Cette confiance en Dieu, elle se manifeste dans la prière et dans la communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu, elle provient de quoi? Elle provient du pardon de nos fautes, de nos péchés. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Mais cette réalité du pardon, elle est manifeste aussi dans le pardon que l'on donne à ceux qui nous ont offensés. Et c'est pour ça qu'il dit juste après, verset 25, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Si vous avez compris que vous avez été pardonné, vous pardonnez. Si vous ne pardonnez pas, c'est que vous n'avez pas réalisé à quel point Christ vous a pardonné. Avez-vous parlé à Dieu ce matin? Je sais que vous êtes tous là. Mais avez-vous parlé à Dieu ce matin? Avez-vous reçu son pardon? Vous êtes-vous saisi de son pardon? Avez-vous pardonné? Le Maître des lieux veut la foi dans notre cœur. Le troisième épisode que l'on va regarder ce matin, c'est la preuve par le cœur. C'est ce que j'ai appelé la preuve par le cœur, versets 27 à 33 de notre passage. Vous vous rendez compte, le lundi, Jésus est venu jeter un coup d'œil dans le temple. Le mardi, il a renversé les tables des changeurs, chassé les vendeurs et leur bétail. Et mercredi, il revient dans le temple. Waouh ! Là, ils commencent tous à être un peu stressés. Ils se rappellent tous les événements de la veille et ils commencent à s'énerver un peu juste à voir Jésus dans le temple, quoi. Et il faut dire que Jésus, il n'a pas fait d'études rabbiniques. Il n'a aucun diplôme de théologie et pourtant il enseigne. Et ce qui les énerve par-dessus tout, c'est qu'il ne leur demande jamais l'autorisation d'enseigner. Non, juste il enseigne parce qu'il est le maître et il enseigne. Surtout, il enseigne pas comme eux, mais il enseigne comme ayant autorité. Et c'est ce qui frappe les foules. Et les foules veulent encore entendre. Quand il croise un paralytique, il lui pardonne ses péchés, et puis il le guérit. Quand il croise un aveugle, il lui rend la vue. Quand il entre dans Jérusalem, il est acclamé comme le Messie, comme celui qui vient au nom du Seigneur. Quand il chasse les vendeurs, il parle et agit comme le maître des lieux. Ils sont furieux. Ils sont furieux parce que Jésus agit en maître. Mais c'est eux les maîtres. C'est eux les maîtres du temple. C'est eux les maîtres des affaires religieuses. Et s'ils commencent à nous chasser tous les vendeurs et à renverser les tables, où est notre pouvoir? Où est notre argent? Et donc, il lui pose cette question. Ils sont vicieux parce qu'ils posent une question dont ils connaissent déjà la réponse. Hein, vous avez vu, verset 28, ils lui dirent « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Alors, ils s'attendent simplement à ce que Jésus dise ce qu'il a déjà dit. Et je vous propose de lire juste quelques versets dans l'évangile de Jean pour vous montrer à quel point Jésus avait déjà été clair et avait déjà répondu à cette question. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 19, il dit « Jésus reprit donc la parole et leur dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Et verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Chapitre 6, verset 38. Il dit... Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et puis chapitre 8, verset 28. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Et puis encore le chapitre 12 et le verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Donc vous voyez, il lui demande « Par quelle autorité tu fais ces choses ?» Ils le savent déjà la réponse, il a dit ça X fois, dit « Je fais les choses selon l'autorité de celui qui m'a envoyé ». C'est le Père qui me dit ce que je dois dire. C'est le Père qui me dit ce que je dois faire. Je fais ça par autorité de Dieu le Père. Mais si Jésus le dit à ce moment-là, ils vont pouvoir l'accuser. Si tu fais les choses au nom du Père, tu te prends pour Dieu lui-même. Mais c'est un blasphème. Et dans ce cas-là, eh bien, on pourra réclamer ton exécution. Donc voilà la pensée qui est derrière leur cœur. Ils ne veulent pas avoir une vraie réponse, ils connaissent déjà la réponse, mais ils veulent qui puisse le dire ouvertement devant tout le monde pour pouvoir l'accuser de blasphème et le faire mourir. Jésus, il connaît tout ça, il connaît toutes les choses de leur cœur, et il leur répond par une autre question. Ça, c'est très juif. Ceux qui ont vu Rabbi Jacob, savent ça. Chacun sa culture. Il répond par une question. Et la question, c'est le baptême de Jean, est-ce que ça vient du ciel ou est-ce que ça vient des hommes? Et là, c'est une très bonne question. Le baptême de Jean, ça fait référence pas simplement au fait d'immerger les gens en acte de repentance, mais ça fait aussi référence à sa prédication, à son enseignement. Ça fait référence aussi à son appel aux foules de venir préparer le chemin du Seigneur et à se repentir. Et puis, surtout, à sa déclaration, Jésus est l'agneau de Dieu. Il est le Messie. Suivez-le. Et Jean, il avait interpellé les mêmes qui interrogent Jésus ici. Il les avait déjà interpellés. Il leur avait dit, race de vipères. C'est un petit mot pour les interpeller. Race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Changez vos cœurs. Et ils ne veulent pas répondre à cette question. Parce que s'ils répondent du ciel, ils ne vont pas savoir quoi répondre à la question suivante qui est « Mais pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Pourquoi n'êtes-vous pas allé vous faire baptiser par lui, en signe de repentance? Et s'ils répondent, mais c'était des hommes, c'était sans autorité divine, eh bien ils ont peur pour leur vie, parce que tout le peuple tenait Jean comme un prophète de Dieu. Et dans l'évangile de Luc, qui rapporte les mêmes événements, Luc dit « il craignait d'être lapidé par le peuple ». Parce que le peuple il est persuadé que Jean était un vrai prophète de Dieu. Rejeter le prophète, c'était rejeter Dieu lui-même. Alors leur réponse est nous ne savons. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça me fait rire de qu'ils disent on ne sait pas. Parce que c'était la parole qu'ils ne disaient jamais. Ils savaient tout. Ils avaient réponse à tout. Mais là, ils sont, pour sauver leur peau, pour échapper à la question de Jésus, ils sont obligés de dire, nous ne savons pas. Leur faire mal à l'aorte. Nous ne savons. En fait, ils savent. Ils savent tellement bien qu'ils ont tout ce raisonnement qu'ils tiennent. Ils savent tellement bien dans leur cœur. Mais ils ne veulent pas de Jésus comme maître. Jésus met fin alors à la conversation en disant « Je ne vous dirai pas non plus ». Sous-entendu, vous le savez dans votre cœur, mais vous ne voulez pas le reconnaître. Ils savent. Ils savent, mais ce sont les conséquences qu'ils ne supportent pas. Si Jésus est le Messie, ils auraient dû aussi l'acclamer lors de son entrée. Si Jésus est le maître du temple, il avait raison de nettoyer le temple de cette sorte et de s'indigner. Devant le maître, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de s'incliner, de reconnaître sa domination et de se repentir, ou bien de le rejeter. On ne peut pas dire « nous ne savons pas ». Et aujourd'hui, personne ici ne peut dire « nous ne savons pas si Jésus est vraiment le maître ». La seule chose que l'on puisse dire, c'est « je veux de ce maître » ou « je n'en veux pas ». La Bible n'offre pas d'autre alternative. Jésus est le maître, il l'a montré au travers de toute sa vie. Les prophètes l'ont annoncé et il a accompli les choses que les prophètes annonçaient. Il a fait les miracles qui témoignent de sa puissance de créateur. Il connaît le fond des cœurs. Il a la puissance de pardonner les péchés. On ne peut pas dire « Jésus n'est pas le maître ». La seule chose qu'on puisse dire, c'est « je ne veux pas de ce maître ». Ces hommes sont repartis avec la preuve par le cœur. Oui, Jésus est le maître absolu. Le maître absolu. Et pourtant, tout ce qu'il fait, il le fait en obéissance à son Père. Oui, Jésus, il est le maître des lieux. Mais ce qu'il veut par-dessus tout, c'est nos cœurs. Et la réalité de la foi, cette confiance en lui. Il est le souverain aussi, plein de douceur et d'humilité. Son autorité sur nos cœurs, il la tient de ce qu'il a donné sa vie pour nous. Parce que notre maître s'est fait serviteur et qu'il est mort à notre place. Alors Dieu l'a déclaré Seigneur en le ressuscitant d'entre les morts. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça signifie que, un jour, tout le monde reconnaîtra et fléchira les genoux devant Dieu, devant le Maître absolu, Jésus-Christ, et reconnaîtra par son attitude et par sa langue, par sa bouche, que Jésus est véritablement le Maître. Mais pour les uns, ce sera pour leur propre condamnation. Mais pour nous aujourd'hui, reconnaître Jésus comme notre Maître, c'est pour notre salut. Parce qu'il est venu pour nous offrir le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Il ne regarde pas aux apparences, il regarde au fond de nos cœurs. Et il veut y trouver la foi en son nom, pour le pardon de nos fautes